Bonjour à tous, il est 15h ici à Paris, 14h à Londres.
Karine Bellicha.
À la une, les alliés de l'Ukraine débutent leur sommet. À l'instant, à Londres, Britanniques et Français sont à la manœuvre face au rapprochement de Washington et de Moscou et travaillent de concert sur un plan de cessez-le-feu aux côtés de Kiev. Message clair, pas question d'avancer sans les Ukrainiens. Présents à Londres, Italie et Pologne mettent en garde contre les dangers des divisions entre Européens et Américains. Le cessez-le-feu en janvier va-t-il tenir au Proche-Orient? La défense civile palestinienne dénonce un bombardement israélien près de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. L'État hébreu dément. Israël qui reste déterminé avec l'appui américain à prolonger la première phase de la trêve alors que les négociations piétinent au Caire. Enfin, nous évoquerons les incendies au Japon qui progressent encore dans le nord de l'archipel après une année 2024 qui a connu un record de chaleur. Il était prévu avant la violente prise à partie de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Depuis, le sommet à Londres semble encore plus crucial. Il vient tout juste de démarrer autour de la table des dirigeants européens, de l'OTAN, du Canada, notamment autour du Premier ministre britannique pour faire bloc. On écoute Keir Starmer, le Premier ministre britannique sur la BBC ce matin, qui évoquait le travail des Britanniques et des Français qui disent travailler sur un plan de cessez-le-feu aux côtés des Ukrainiens.
Nous sommes convenus que le Royaume-Uni, aux côtés de la France et possiblement d'un ou deux autres pays, travailleront avec l'Ukraine afin d'établir un plan visant à l'arrêt des combats. Puis nous discuterons de ce plan avec les États-Unis. Le Royaume-Uni et la France sont à l'initiative de la réflexion, c'est pourquoi je vais y travailler avec le président Macron, c'est un pas dans la bonne direction. Il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, mais nous devons adopter un rythme plus rapide et plus souple, c'est pourquoi à ce stade, je parlerai d'une coalition de bonne volonté.
Le fait que ce sommet se déroule à Londres est tout un symbole. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Londres a été d'un des plus grands fervents soutiens de Kiev, rappelle Aurélien Antoine, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. On l'écoute.
Les Britanniques sont en première ligne du soutien à Kiev, y compris à l'époque de Boris Johnson, dont on a fait souvent de sa personnalité une espèce de simili de Donald Trump. Sur cette question, pas vraiment, puisque Boris Johnson a toujours été assez réactif et très mobilisé en faveur de l'Ukraine. Et par ailleurs, ça se poursuit avec le gouvernement travailliste et la leader de l'opposition aujourd'hui conservatrice a rappelé que tous les partis britanniques étaient unis derrière cette ligne-là et cet investissement en faveur de l'Ukraine et a permis d'ailleurs aux Britanniques de se méfier très tôt de l'attitude de la Russie vis-à-vis de leur projet en Ukraine. Et il est indéniable que les Britanniques paraissent aujourd'hui comme le tout premier soutien matériel et j'allais dire désormais politique en faveur de l'Ukraine.
Aurélien Antoine, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, invité à la mi-journée d'RFI. Avant le sommet, dans une interview à la presse écrite ce matin, Emmanuel Macron a appelé au réveil stratégique du continent. Si Vladimir Poutine n'est pas stoppé, ajoute le président français, Moscou poussera ses troupes jusqu'à la Moldavie, voire même jusqu'en Roumanie. La Croix-Rouge demande que tous les efforts soient faits pour maintenir le cessez-le-feu au Proche-Orient. Depuis quelques heures, la tension est grande. La défense civile de la bande de Gaza dénonce un bombardement israélien près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne ce matin. Au total, 4 Palestiniens ont été tués aujourd'hui, toujours selon les autorités locales. Israël dément un bombardement, dit avoir visé des suspects manipulant des engins explosifs. Cette nuit, l'État hébreu a pris la décision de prolonger la première étape de la trêve avec l'aval de Washington, faute d'accord sur la suite, condamnation du Hamas et du djihad islamique. Israël a aussi décidé de nouveau de bloquer l'entrée des convois de marchandises dans la bande de Gaza. Les autorités israéliennes bénéficient du retour de Donald Trump au pouvoir. En Iran, il a précipité la chute du ministre de l'économie. Le rial, déjà mal en point, s'est effondré un peu plus encore depuis le retour de Donald Trump dans le bureau ovale. L'inflation est galopante. Rendu responsable de la crise économique, le Parlement a décidé de révoquer Abdel Nasser et Mati. En Syrie, les nouvelles autorités de Damas peinent toujours à ramener l'ordre dans plusieurs régions du pays. Des affrontements les ont opposés à des combattants druzes près de la capitale hier, à Jaramana, faisant un mort. Restaurer la sécurité est un enjeu majeur du nouveau pouvoir, d'autant plus qu'Israël menace toujours d'intervenir. Au Japon, des centaines d'habitants ont été évacués dans le nord du pays. Des feux de forêt ont ravagé une surface record depuis 92 et fait un mort, selon les autorités. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée au Japon. La correspondance sur place de Frédéric Charles.
Ces feux de forêt sont concentrés dans la préfecture d'Iwate, surnommée le Tibet du Japon, une région sauvage et mystérieuse. En mars 2011, la côte d'Iwate avait été submergée par le tsunami géant qui frappa le Tohoku. Ces vagues parcoururent jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur des terres. Les autorités reconstruisirent les villages détruits loin de la côte, le plus haut possible. Aujourd'hui, les survivants du tsunami qui ont refait leur vie dans les régions montagneuses d'Iwate sont rattrapés par les feux de forêt. Pour certains d'entre eux, leurs habitations sont détruites une seconde fois, cette fois-ci par les incendies de forêt. Le maire de Funato dit que plus de 1200 hectares de terrain sont ravagés par les flammes, soit près de 6 fois la superficie de Monaco. Plus de 1700 pompiers luttent contre les incendies. Des hélicoptères de l'armée tentent d'éteindre les flammes, mais des vents violents les empêchent parfois de voler. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
L'île de la Réunion est défigurée, ce sont les mots du préfet après le passage du cyclone dans l'île française de l'océan Indien. Garance a fait 4 morts et les dégâts matériels sont considérables. Plus de 300 000 habitants sont toujours privés d'eau potable. Beaucoup de routes sont détruites et des torrents d'eau ont tout emporté sur leur passage. Les cultures de l'île ont beaucoup souffert également. Des renforts de la sécurité civile venus de Métropole et de Mayotte vont prêter main forte aux secours réunionnais. Le ramadan a débuté hier pour près de 2 milliards de musulmans dans le monde, un mois de jeûne placé sous le signe de la solidarité, l'occasion pour certains étudiants d'intensifier leurs actions auprès des plus démunis et aussi d'apporter un soutien à leurs camarades, parfois éloignés de leur famille. Reportage en France, à Paris, de Sarah Yasmine Ziani.
Maïko, mon père école pour construire un puits au Mali.
À l'heure de la prière médiane, des étudiants de l'association Ensemble pour le Bien en appellent au don des croyants qui entrent dans la grande mosquée de Paris. Anaël, 20 ans, en fait partie.
Aujourd'hui, on est là pour un projet, c'est une construction de puits au Mali. Donc on a un budget de 4000 euros, là on va attendre la somme. Là c'est le premier jour de Ramadan, on a beaucoup plus récolté que d'habitude. On est peut-être vers les 400-500, alors que de base on récolte environ 200-300.
Merci.
Au revoir. Des maraudes et des récoltes de dons, Jana en fait aussi. Cette étudiante en prépa UNS a la chance d'habiter avec sa famille, quand d'autres souffrent parfois de l'isolement.
J'ai une autre copine qui est musulmane aussi, qui n'a pas sa famille à Paris, donc elle c'est beaucoup plus compliqué pour le soir, puisque bah, déjà il y a la précarité étudiante. En plus de ça, de base le ramadan c'est un moment convivial, on partage des grands repas, elle doit faire ses repas toute seule quand elle rentre, et donc vraiment ça peut être très compliqué pour les étudiants en général.
Alors Jana n'hésite pas à inviter ses amis pour la rupture du jeûne.
Le mois de ramadan c'est avant tout un mois de partage, un mois d'entraide, c'est important de faire des bonnes actions, et justement ce qu'on appelle la sadaka, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aider les plus démunis et donner le plus qu'on peut donner.
Et à Paris, le collectif des étudiants musulmans de France organise des distributions alimentaires plusieurs soirs par semaine.
Aux États-Unis, le tapis rouge est déjà déroulé à Hollywood. La cérémonie des Oscars aura lieu ce soir pour récompenser les films de l'année. La tragicomédie Anora et le thriller papal Conclave sont au coude à coude pour le prix du meilleur long métrage. Emilia Pérez de Jacques Audiard pourrait repartir bredouille, plombée par les tweets racistes et islamophobes de son actrice principale. Côté interprétation, nommée pour The Brutalist, Adrien Brody, qui incarne un architecte survivant survivants de l'Holocauste par favori pour l'emporter, pour remporter l'Oscar du meilleur acteur. Et puis Demi Moore pourrait aussi s'imposer grâce à sa performance dans The Substance de la française Coralie Farja. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'RFI.